Chapitre 6. Charleston, mardi 16 décembre 1980. La jeune femme se tenait immobile, les bras tendus, les deux mains serrées sur la crosse du pistolet braquée sur la poitrine de Saul Lasky. Celui-ci savait qu'elle risquait de tirer s'il sortait de la garde-robe, mais rien au monde n'aurait pu le forcer à rester dans ce sombre réduit où la puanteur de la fosse montait à ses narines. Il émergea en trébuchant dans la lumière grise de la chambre. La femme recula d'un pas sans baisser son arme. Elle ne tira pas. Saul inspira profondément à plusieurs reprises et remarqua qu'elle était jeune, noire, et qu'il y avait des gouttes de pluie sur son imperméable blanc et sur ses cheveux courts coiffés à l'afro. Peut-être était-elle séduisante, mais Saul ne voyait que l'arme qu'elle braquait sur lui. C'était un petit pistolet automatique, un calibre 32, pensa-t-il, mais en dépit de sa petite taille, la gueule noire de son canon retenait totalement son attention. « Les mains en l'air, » dit-elle. Sa voix était douce, sensuelle, et son accent fleurait le sud sans être fruste. Saul leva les mains et croisa les doigts sur sa nuque. « Qui êtes-vous ? » demanda-t-elle. Elle tenait toujours l'automatique des deux mains, mais ne semblait pas se fier à son arme. Elle était trop près de lui, à 1,20 m environ. Saul savait qu'il aurait sans doute le temps de détourner le canon avant qu'elle n'appuie sur la détente, mais il ne bougea pas. « Qui êtes-vous ? » répéta-t-elle. « Je m'appelle Saul Lasky. Que faites-vous ici ?
Je pourrais vous poser la même question.
Répondez-moi. » Elle leva un peu plus son arme pour l'encourager. Saul savait à présent qu'il avait affaire à un amateur, une femme à qui la télévision avait fait croire que les armes à feu étaient des baguettes magiques conçues pour faire obéir les gens. Il l'étudia du regard. Elle était plus jeune qu'il ne l'aurait cru de prime abord, à peine une vingtaine d'années. Elle avait un visage ovale et séduisant, des traits délicats, des lèvres pleines, et de grands yeux qui paraissaient noirs dans la pénombre. Sa peau avait la couleur du café crème.
« Je jette un coup d'œil, » dit Saul.
Sa voix était posée, mais il constata avec intérêt que son corps réagissait comme d'habitude dans de telles circonstances. Ses testicules s'efforçaient de remonter dans son ventre, et il avait une envie irrésistible de se cacher derrière quelqu'un, derrière n'importe qui, y compris lui-même. « Cette maison a été scellée par la police, » dit-elle. Saul remarqua qu'elle n'avait pas détaché les syllabes du mot « police », contrairement à l'usage de tant de Noirs américains de New York.
« Oui, je sais. Que faites-vous ici ?»
Saul hésita. Il la regarda dans les yeux. Il y lut de l'anxiété, de la tension et une forte détermination. Ses émotions humaines le rassurèrent et le convainquirent de lui dire la vérité.
« Je suis médecin, psychiatre. Je m'intéresse aux meurtres qui ont été perpétrés ici la semaine dernière. »
« Un psychiatre ?» La jeune femme semblait dubitative. Le pistolet ne trembla point. La maison, à présent presque entièrement plongée dans les ténèbres, n'était éclairée que par le réverbère de la cour. « Pourquoi êtes-vous entré par effraction ? » demanda-t-elle. Saul haussa les épaules.
« Je craignais que les autorités me refusent la permission d'examiner les lieux. J'espérais trouver quelque chose qui puisse m'aider à expliquer les événements. Je pense que je ne trouverai rien.
Je devrais appeler la police. »«
Faites. Je n'ai pas vu de téléphone au rez-de-chaussée, mais il y en a sûrement un quelque part. Appelons la police. Appelons le shérif Gentry. Je serai inculpé pour effraction. Quant à vous, vous le serez pour effraction, agression caractérisée et port d'armes prohibées. Cette arme n'est pas déclarée, je suppose. »
La jeune femme avait sursauté en entendant le nom de Gentry. Elle passa outre à la question de Saul.
« Que savez-vous sur les meurtres de samedi dernier ?»
Sa voix faillit se briser lorsqu'elle prononça le mot « meurtre ».
Saul s'étira pour calmer la douleur qui lui taraudait la nuque et les bras. « Je ne sais que ce que j'ai lu, bien que j'ai connu une des victimes de son vivant, Nina Drayton. Je pense que cette affaire est plus complexe que ne l'imaginent le shérif Gentry et Haynes, l'agent du FBI.
Que voulez-vous dire ?
Je veux dire que 9 personnes ont été tuées dans cette ville samedi dernier, et que personne ne peut expliquer leur mort. Mais je pense que ces personnes ont un point commun qui a échappé aux enquêteurs.
J'ai mal au bras, mademoiselle. Je vais les baisser, mais je ne bougerai plus ensuite. »
Il baissa les mains avant qu'elle ait eu le temps de réagir. Elle fit un pas en arrière. La vieille maison craquait autour d'eux. Quelque part dans la rue, un autoradio brailla pendant une seconde, puis se tut.
« Je pense que vous mentez, » dit la jeune femme. « Peut-être que vous êtes un banal cambrioleur, ou une espèce de goule en quête de souvenirs. Ou peut-être que vous êtes vous-même mêlé à cette série de meurtres. »
Saul resta muet. Il examina la jeune femme dans l'obscurité. Le petit automatique était à peine visible dans ses mains. Il percevait sans peine son indécision. Finalement, il prit la parole.
« Preston. Joseph Preston, le photographe.
Sa femme ?
Non, pas sa femme. Le shérif Gentry m'a dit que M. Preston vivait ici depuis 26 ans, je crois.
Sa fille, peut-être.
Oui, sa fille.
La jeune femme fit un autre pas en arrière.
Votre père a été tué en pleine rue, dit Saul. Un meurtre brutal, insensé. Les autorités ne peuvent vous donner aucune explication concluante et leurs réponses ne vous satisfont pas. Alors vous attendez. Vous observez. Peut-être surveillez-vous cette maison depuis plusieurs jours. Puis, un juif new-yorkais coiffé d'un bob escalade la barrière.
Peut-être que je vais apprendre quelque chose, pensez-vous.
Est-ce que je me trompe ?
La jeune femme resta muette, mais elle abaissa son arme. Saul vit ses épaules frémir et se demanda si elle pleurait.
Eh bien, dit-il en lui posant une main sur le bras, peut-être que je peux vous aider. Peut-être que nous pourrons trouver ensemble un sens à ces événements insensés.
Venez, quittons cette maison. Elle pue la mort. La pluie avait cessé. Le jardin sentait l'humus et la terre mouillée. La jeune femme conduisit Saul jusqu'à la remise, près de laquelle elle avait ouvert une brèche dans la grille. Il se faufila derrière elle. Saul remarqua qu'elle avait rangé le pistolet dans la poche de son imperméable blanc. Ils avancèrent dans l'allée cendrée qui crissait doucement sous leurs pas. La nuit était fraîche.
« Comment saviez-vous qui j'étais ? »
demanda-t-elle.
« Je ne le savais pas. Je l'ai deviné. »
Une fois dans la rue, ils restèrent silencieux une minute.
« Ma voiture est garée devant la maison, » dit finalement la jeune femme.
« Ah bon ? Comment m'avez-vous vu entrer, alors ?»«
Je vous ai remarqué quand vous êtes passé devant la porte. Vous regardiez les maisons avec attention et vous avez failli vous arrêter devant celle-ci. Quand vous vous êtes éloigné, je suis allé faire un tour derrière.
Je ferai un bien piètre espion.
Vous êtes vraiment psychiatre ?
Oui.
Mais vous n'êtes pas d'ici.
Non.
De New York. Je travaille parfois à la clinique de l'Université de Columbia.
Vous êtes citoyen américain ?
Oui.
Votre accent, c'est un accent allemand, peut-être ?
Non, je suis né en Pologne.
Comment vous appelez-vous ?
Nathalie, Nathalie Preston. Mon père était... Mais vous savez déjà tout.
Non.
Je ne sais pas grand-chose. En ce moment, il y a une seule chose que je sais avec certitude.
Laquelle ? Le regard de la jeune femme était chargé d'intensité.
Je suis affamé. Je n'ai rien mangé depuis le petit déjeuner, et je n'ai rien bu à part l'horrible café que m'a offert le shérif. Si vous voulez bien m'accompagner pour dîner, nous pourrions poursuivre cette conversation. Oui, mais à deux conditions.
Lesquelles?
Premièrement, vous me donnerez toutes les informations susceptibles, selon vous, d'expliquer le meurtre de mon père.
Oui.
Et deuxièmement, vous enlèverez ce Bob tout mouillé pendant le repas.
Accordé. Le restaurant s'appelait Chez Henry et se trouvait à quelques pâtés de maison de là, près du vieux marché. Vu de l'extérieur, il ne payait pas de mine. Sa façade blanchie à la chaux était dépourvue de vitrines et de décorations, excepté une enseigne lumineuse accrochée au-dessus de la porte. L'intérieur était sombre, vieillot, et rappela à Saul une auberge des environs de Lotz que sa famille avait l'habitude de fréquenter durant son enfance. Des noirs élancés en veste blanche allaient et venaient discrètement entre les tables. L'atmosphère était imprégnée d'un parfum stimulant de vin, de bière et de fruits de mer.
« Excellent !» dit Saul. « Si le goût des plats correspond à leur parfum, ce sera une merveilleuse expérience. »
Il ne se trompait pas. Nathalie commanda une salade de crevettes, Saul des brochettes d'espadon aux petits légumes. Ils burent du vin blanc frais et abordèrent tous les sujets, sauf celui dont ils avaient prévu de discuter. Nathalie apprit que Saul vivait seul, mais qu'il était persécuté par une gouvernante mi-yenta, mi-psychothérapeute. Il affirma à Nathalie qu'il n'aurait jamais besoin de consulter un collègue tant que Théma continuerait à lui expliquer ses névroses et à leur chercher des remèdes.
« Vous n'avez pas de famille, alors ?» demanda Nathalie.
« Rien qu'un neveu, aux États-Unis, » dit Saul en adressant un hochement de tête au garçon qui venait débarrasser la table. « J'ai un cousin en Israël, ainsi que plusieurs parents éloignés. » Saul parvint à apprendre que la mère de Nathalie était morte quelques années auparavant et que Nathalie poursuivait actuellement des études supérieures.
« Vous dites que vous fréquentez une faculté du Nord ? » demanda-t-il.
« Ce n'est pas tout à fait le Nord, c'est à Saint-Louis, l'université Washington. »
« Pourquoi avez-vous choisi un établissement aussi éloigné ? Il y a une fac à Charleston. »
« Un de mes amis a donné des cours dans une université de Caroline du Sud. Columbia, c'est ça ?»«
Oui. »«
Et le collège de Wofford ? C'est en Caroline du Sud, n'est-ce pas ?»«
Bien sûr. »«
Et il y a aussi l'université Bob Jones à Greenville. Mais mon père voulait que j'aille le plus loin possible de ce qu'il appelait la ceinture des bouseux. »«
L'université Washington à Saint-Louis a un excellent centre de formation des enseignants. » Un des meilleurs parmi ceux qui acceptent les diplômés en arts plastiques, ou du moins les boursiers.
Vous êtes artiste,
photographe, parfois cinéaste, un peu dessinatrice et peintre. J'ai aussi un diplôme de lettres. J'ai étudié à Oberlin, dans l'Ohio. Ça vous dit quelque chose?
Oui. Bref, une de mes amies, une excellente aquarelliste du nom de Diana Gold, m'a convaincu que le métier d'enseignante était formidable.
Mais pourquoi suis-je en train de vous raconter tout ça ?
Saul sourit. Le garçon vint leur apporter la note et Saul insista pour payer. Il laissa un généreux pourboire.
Vous n'allez rien me dire, n'est-ce pas ? Demanda Nathalie. Sa voix avait des accents peinés.
Au contraire, je vais probablement vous en dire plus que je n'en ai jamais dit à quiconque.
La question est, pourquoi ?
Que voulez-vous dire ?
Je veux dire, pourquoi avons-nous une telle confiance l'un dans l'autre ?
Vous surprenez un individu qui entre par effraction dans une maison, et 2 heures plus tard, nous voilà en train de bavarder après un excellent repas. Je rencontre une jeune femme qui me menace d'un pistolet, et en moins de quelques heures, je suis prêt à partager avec elle des choses que j'ai gardées secrètes pendant plusieurs années.
« Pourquoi, Mrs. Preston ?»«
Miss Preston, Nathalie, je ne peux que parler pour moi. »«
Alors allez-y, je vous en prie. »«
Vous avez un visage honnête, docteur Lasky. »«
Peut-être le mot honnête est-il mal choisi. »« Un visage compatissant. »«
Vous avez connu la tristesse. » Nathalie s'interrompit.
« Nous avons tous connu la tristesse. » dit doucement Saul.
La jeune noire hocha la tête.
Mais il y a certaines personnes auxquelles elle n'a rien appris. Je pense que ce n'est pas votre cas.
C'est dans vos yeux.
Je ne sais pas comment l'exprimer autrement.
C'est donc là-dessus que nous fondons nos jugements et notre avenir? Les yeux d'une personne?
Nathalie se tourna vers lui.
Pourquoi pas?
Existe-t-il un meilleur moyen?
Ce n'était pas un défi, mais une question sérieuse.
Saul secoua lentement la tête.
Non.
Peut-être n'existe-t-il pas de meilleur moyen.
Du moins au début.
Ils sortirent du Charleston historique et prirent la direction du sud-ouest. Saul suivant la Nova verte de la jeune femme au volant de sa Toyota de location. Ils traversèrent l'Ashley River sur l'autoroute 17 et firent halte quelques minutes plus tard dans un quartier du nom de St. Andrews. Les maisons étaient en majorité blanches, d'aspect modeste mais bien entretenues. Saul se gara dans l'allée derrière la voiture de Nathalie Preston. L'intérieur de la maison était propre et confortable. Un vrai foyer. Dans la salle de séjour, un fauteuil à oreillettes et un canapé bien rembourré se disputaient l'espace disponible. La cheminée était prête à accueillir un feu. Au-dessus d'elle se trouvait une plante verte et plusieurs photos de famille encadrées. Il y avait d'autres cadres sur le mur, mais ils abritaient des œuvres d'art, pas des instantanées. Saul les examina une par une, tandis que Nathalie allumait les lumières et rangeait son imperméable.
« Ansel Adams, » dit Saul, en contemplant une superbe photo en noir et blanc, montrant un petit village désert et son cimetière, baigné par la lumière du soir sous une lune pâlote.
« J'ai entendu parler de lui. »
Sur une autre épreuve, un banc de brume envahissait une ville nichée sur le flanc d'une colline.
« Minor White, » dit Nathalie. « Mon père l'a bien connu dans les années 50. »
Il y avait des œuvres signées Imogen Cunningham, Sébastien Milito, George Tice, André Kertész et Robert Frank. Saul tomba en arrêt devant la photo due à ce dernier. Un homme vêtu d'un costume sombre, une canne à la main, se tenait sous la véranda d'un vieil immeuble, maison ou hôtel. Un escalier conduisant à une seconde véranda dissimulait le visage du sujet. Saul avait envie de faire deux pas de côté pour l'identifier. Quelque chose dans cette photo suscitait en lui une profonde tristesse.
« Je regrette de ne pas connaître tous ces noms, » dit-il. « Ce sont des photographes célèbres ?»«
Certains. Ces épreuves valent aujourd'hui 100 fois le prix que mon père les a payés, mais il ne les vendra jamais. »
Silence. Saul prit un instantané montrant une famille noire en train de pique-niquer. L'épouse avait un sourire chaleureux et ses cheveux étaient coiffés dans le style du début des années 60.
« Votre mère ?»«
Oui.
Elle est morte dans un accident bizarre en juin 1968, 2 jours après l'assassinat de Robert Kennedy. J'avais 9 ans. »
Sur la photographie, une petite fille était debout sur la table de pique-nique, tout sourire, lorgnant son père. À côté de cette photo se trouvait un portrait du père de Nathalie à un âge plus avancé, sérieux, et plutôt bel homme. En voyant sa petite moustache et ses yeux brillants, Saul pensa à Martin Luther King en plus maigre.
« C'est un très beau portrait, » dit-il.
« Merci. Je l'ai fait l'été dernier. »
Saul regarda autour de lui.
« Il n'y a aucune œuvre de votre père ?»«
Par ici, » dit Nathalie en le conduisant vers la salle à manger. « Papa ne voulait pas les accrocher dans la même pièce que les autres. »
4 photographies en noir et blanc décoraient un large mur au-dessus d'une épinette. Les 2 premières étaient des études de lumière sur de vieilles maisons en briques. La 3e était une vue au grand angle d'une plage et d'un océan s'étendant à l'infini sous une lumière fabuleuse. La 4e, qui montrait un sentier forestier, était un chef-d'œuvre de composition.
« Elles sont merveilleuses !» dit Saul. « Mais on ne voit personne dessus !»
Nathalie eut un petit rire.
« C'est vrai. Papa gagnait sa vie en faisant des portraits et
et il refusait de consacrer ses loisirs à cette activité. De plus, c'était un homme timide. Il détestait photographier les gens par surprise. Et il a toujours insisté pour que j'aie leur autorisation écrite quand je le faisais. Il détestait s'immiscer dans la vie privée des gens. Et puis papa était, eh bien, tout simplement timide. Quand il voulait se faire livrer une pizza à domicile, il me demandait toujours de téléphoner. La voix de Nathalie se brisa et elle détourna les yeux pendant quelques secondes. « Voulez-vous un peu de café ?»« Oui, volontiers. » Il y avait une chambre noire attenante à la cuisine. À l'origine, ce devait être un réduit ou une petite salle de bain. « C'est là que votre père et vous développiez vos photos ?» demanda Saul. Nathalie hocha la tête et alluma une lampe monochromatique. La petite pièce était impeccablement organisée. Bac, agrandisseur, produits chimiques, tout était rangé et étiqueté. Une dizaine d'épreuves étaient suspendues à un fil de nylon. Saul les étudia. Elles montraient toute la maison Fuller, photographiées sous divers angles et à diverses heures de la journée. « C'est vous qui les avez prises ?»« Oui. » »« Je sais que c'est idiot, mais ça valait mieux que de rester toute la journée dans la voiture en attendant qu'il se passe quelque chose. » Elle haussa les épaules. « Je suis allé au bureau du shérif chaque jour et ça ne m'a servi à rien. »« Voulez-vous de la crème ? Du sucre ?» Saul secoua la tête. Ils se rendirent dans la salle de séjour et s'assirent près de la cheminée. Nathalie sur le fauteuil, Saul sur le canapé. Les tasses de café étaient d'une porcelaine si fine qu'elles semblaient presque transparentes. Nathalie s'affaira près des bûches et des brindilles, puis alluma un bout de papier. Le feu prit aussitôt. Ils passèrent tous deux un long moment à contempler les flammes. Samedi dernier, je faisais mes achats de Noël à Clayton avec des amis, dit finalement Nathalie. Clayton est une banlieue de Saint-Louis. Nous sommes allés voir un film, Popeye, avec Robin Williams. Je suis rentré à mon appartement de la cité universitaire vers 11h30. Dès que le téléphone a sonné, j'ai su qu'il était arrivé quelque chose de grave. Je ne sais pas pourquoi. Je reçois souvent des appels tard le soir. Frédéric, un de mes meilleurs amis, ne sort jamais du centre d'informatique avant 11h. Et il a souvent envie d'aller manger une pizza avec moi. Mais cette fois-ci, je savais qu'on m'appelait de loin pour m'annoncer de mauvaises nouvelles. C'était Mrs. Culver qui habite la maison voisine. Ma mère et elle étaient de très bonnes amies. Bref, elle n'arrêtait pas de dire qu'il y avait eu un accident. C'est le mot qu'elle a employé, accident. Il m'a fallu une ou deux minutes pour comprendre que papa était mort, qu'on l'avait tué. Le dimanche matin, j'ai pris le premier avion. Ici, tout était fermé. J'avais appelé les pompes funèbres depuis Saint-Louis, mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé porte close. J'ai dû faire le tour des bureaux avant de tomber sur quelqu'un qui veuille bien m'ouvrir. Et rien n'était prêt. Mrs. Culver était venue m'attendre à l'aéroport. Mais elle ne cessait de pleurer et elle était restée dans la voiture. Ça ne ressemblait pas à papa. Et la façon dont on l'a maquillé pour la cérémonie de mardi n'a rien arrangé. J'étais complètement déboussolé. Le dimanche, à la police, personne n'était au courant de rien. On m'a promis qu'un certain inspecteur Holman me rappellerait ce soir-là, mais il ne l'a pas fait. Il ne m'a téléphoné que le lundi après-midi. Par contre, le shérif du comté, Monsieur Gentry, je crois que vous l'avez déjà rencontré, est venu aux pompes funèbres le dimanche. Il m'a raccompagné chez moi et a essayé de répondre à mes questions. Tous les autres n'ont fait que me poser des questions. Bref, le lundi, ma tante Léa et mes cousins sont arrivés et j'étais trop occupé pour réfléchir jusqu'au mercredi. Beaucoup de gens sont venus aux obsèques. J'avais oublié que papa avait tant d'amis. Il y avait beaucoup de commerçants et d'habitants du vieux quartier. Le shérif Gentry était là. Léa voulait rester ici une semaine ou deux, mais Floyd, son fils, devait retourner à Montgomery. Je lui ai dit que tout irait bien, que j'irais peut-être passer Noël chez elle. Nathalie marqua une pause. Saul était penché en avant, les mains jointes. Elle reprit son souffle et indiqua la fenêtre d'un geste vague. « C'est à ce moment de l'année que papa et moi mettons l'arbre dans le jardin. C'est un peu tard, mais papa disait toujours que c'était plus amusant si l'arbre arrivait peu de temps avant Noël. En général, on va l'acheter au Dairy Queen de Savannah. Vous savez, je lui avais acheté une chemise Pendleton samedi, et une chemise écossaise, rouge. Je l'ai emportée avec moi, je sais pas pourquoi. Il va falloir que je la rapporte au magasin. »
Elle s'interrompit et baissa la tête.
« Excusez-moi. »
Elle se précipita dans la cuisine.
Saul contempla le feu quelques minutes, les doigts croisés, puis il alla la rejoindre. Elle était appuyée contre l'évier, un Kleenex serré dans la main gauche, les bras rigides. Saul s'arrêta à un mètre d'elle.
« Ça me rend tellement furieuse !»
dit-elle sans regarder Saul.
« Oui. Je veux dire, c'est comme s'il ne comptait même pas. Comme s'il n'était pas important. Vous me comprenez ?»«
Oui. »
« Quand j'étais petite, je regardais souvent les westerns à la télévision. Et quand quelqu'un se faisait tuer, ni le héros, ni le méchant, un type ordinaire, c'était comme s'il n'avait jamais existé, vous voyez. Et ça m'embêtait. » Je n'avais que 6 ou 7 ans, mais ça m'embêtait. Je pensais toujours à lui, à ses parents, à son enfance, à sa jeunesse, à la façon dont il avait choisi de s'habiller ce jour-là, et puis, bang! Il n'existe plus. Tout ça parce que le scénariste voulait montrer que le bon tirait vite, ou quelque chose comme ça. Oh merde, je raconte n'importe quoi.
Nathalie frappa le bord de l'évier de la main. Saul s'avança et lui toucha le bras.
« Non, ce n'est pas n'importe quoi. Ça me rend tellement enragé. Mon père était réel. Il n'avait jamais fait de mal à personne, jamais. C'était l'homme le plus adorable que j'ai jamais connu. Et quelqu'un l'a tué. Et personne ne sait pourquoi. Ils ne savent rien. Bon sang, je suis désolé. »
Saul la prit dans ses bras et la serra contre lui pendant qu'elle pleurait. Nathalie avait fait réchauffer leur café. Elle s'assit sur le fauteuil. Saul resta debout près de la cheminée, caressant machinalement les feuilles de la plante verte.
« Ils étaient 3, » dit-il. « Melanie Muller, Nina Drayton et un Californien du nom de Borden. C'étaient des tueurs, tous les 3. »«
Des tueurs ?
Mais la police dit que Miss Fuller était une vieille dame, une très vieille dame. » Et que Mrs. Drayton faisait partie des victimes.
« Oui, »
dit Saul.
« Et c'était des tueurs tous les 3. »
Personne n'a mentionné le nom de Borden.
Il était là. Et il était à bord de l'avion qui a explosé vendredi, dans la nuit de vendredi à samedi exactement. Ou plutôt, il était censé être à bord.
Je ne comprends pas. C'est arrivé plusieurs heures avant le meurtre de mon père. Comment ce Borden, ou les 2 autres d'ailleurs, peuvent-ils être responsables de la mort de mon père ?
Ils utilisaient les gens, dit Saul. Ils contrôlaient les gens. Chacun d'eux avait des employés à sa disposition.
C'est difficile à expliquer.
Vous voulez dire qu'ils étaient en rapport avec la mafia ou quelque chose de ce genre ?
Saul sourit.
« Si seulement c'était aussi simple !»
Nathalie secoua la tête.
« Je ne comprends pas.
C'est une longue histoire. En grande partie fantastique, incroyable même. Il vaudrait mieux que vous ne l'écoutiez pas. Soit vous allez penser que je suis fou, soit vous allez vous retrouver impliqué dans quelque chose d'horrible.
« Je suis déjà impliqué, »
dit Nathalie d'une voix ferme.
Oui.
Saul hésita.
Mais il est inutile de vous impliquer davantage. Je resterai impliqué. Du moins tant qu'on n'aura pas retrouvé l'assassin de mon père. Si vous ne me communiquez pas vos informations, je m'en passerai, docteur Lasky. Je le jure.
Saul regarda la jeune femme pendant un long moment. Puis il soupira.
« Oui, je vous crois. Mais peut-être changerez-vous d'avis après avoir entendu mon histoire. Si je dois vous expliquer ce que je sais sur ces trois vieillards, les trois tueurs responsables de la mort de votre père, j'ai bien peur d'être obligé de vous raconter ma propre histoire. Je ne l'ai jamais racontée à personne. C'est une très longue histoire. Allez-y. J'ai tout mon temps. Je suis né en 1925, à Lodz, en Pologne. »
Commença Saul.
« Ma famille était relativement aisée. Mon père était médecin. Nous étions juifs, mais nous n'étions pas des juifs orthodoxes. Ma mère avait pensé se convertir au catholicisme dans sa jeunesse. Mon père se considérait d'abord comme un médecin, ensuite comme un Polonais, puis comme un citoyen de l'Europe, et enfin comme un juif. Peut-être même accordait-il encore moins d'importance à sa judaïté. À cette époque, Lodz était une ville relativement accueillante pour les juifs. Un tiers de ses 600 000 habitants étaient juifs. Nombre de ses citoyens les plus importants, artisans et hommes d'affaires, étaient juifs. Ma mère comptait beaucoup d'artistes parmi ses amis. Son oncle a fait partie de l'orchestre symphonique pendant plusieurs années. Lorsque j'ai fêté mon 10e anniversaire, les choses avaient changé. Certains politiciens locaux s'étaient fait élire en promettant de chasser les juifs de la ville. Le pays semblait se retourner contre nous, contaminé par l'antisémitisme qui faisait rage chez nos voisins allemands. Mon père attribuait ce phénomène à la dure période que nous venions de vivre. Il répétait sans cesse que les juifs européens avaient pris l'habitude de vivre des années de pogroms suivies par des générations de progrès. « Nous sommes tous des êtres humains, disait-il, en dépit des différences qui nous séparent temporairement. Je suis sûr que mon père a conservé cette croyance jusqu'à l'heure de sa mort. »
Saul s'interrompit. Il se mit à arpenter la pièce, s'arrêtant finalement près du canapé, les mains posées sur le dossier.
« Vous voyez, Nathalie, je n'ai pas l'habitude de raconter tout cela. Je ne sais pas faire le tri entre le nécessaire et le superflu. Peut-être devrions-nous attendre un autre jour ?»« Non, continuez. Prenez tout votre temps. Vous m'avez dit que votre histoire m'aiderait à comprendre la mort de mon père. » « Oui. Continuez. Racontez-moi tout. »
Saul hocha la tête et vint s'asseoir à côté d'elle. Il posa les coudes sur ses genoux. Ses larges mains s'agitaient pour souligner ses paroles.
« J'avais 14 ans quand les Allemands sont entrés dans notre ville. C'était en septembre 1939. Tout d'abord, ce ne fut pas si grave. Ils créèrent un conseil juif pour les assister dans l'administration de ce nouvel avant-poste du Reich. À en croire mon père, cela prouvait que des négociations civilisées permettaient de s'entendre avec tout le monde. Ils ne croyaient pas aux démons. En dépit des protestations de ma mère, mon père a proposé sa candidature au conseil. Elle n'a pas été retenue. 31 notables juifs avaient déjà été désignés. Un mois plus tard, en novembre, les Allemands ont envoyé les membres du conseil dans un camp de déportation et ont incendié notre synagogue. Notre famille a alors envisagé de rejoindre notre oncle Moshe dans sa ferme, près de Cracovie. Il y avait déjà des restrictions de nourriture à Lodz. Nous avions l'habitude de passer l'été à la ferme, et l'idée de retrouver le reste de la famille nous séduisait. Oncle Moshe nous a appris que sa fille Rebecca avait épousé un juif américain et qu'il comptait aller s'établir en Palestine pour y devenir fermier. Elle avait souvent tenté de convaincre ses jeunes frères et cousins de se joindre à elle. Personnellement, j'aurais été enchanté d'aller vivre à la ferme. J'avais déjà été renvoyé de mon école, ainsi que tous les élèves juifs. Oncle Moshe avait jadis enseigné à l'université de Varsovie, et je savais qu'il aurait été heureux de devenir mon précepteur. Les nouvelles lois obligeaient mon père à ne soigner que des juifs,
et la plupart de ses patients habitaient très loin de chez nous, dans les quartiers pauvres de la ville. Nous avions peu de raisons de rester à Lodz, beaucoup d'en partir. Mais nous sommes restés. Nous avions prévu de rendre visite à l'oncle Moshe en juin, comme d'habitude, et de prendre notre décision à ce moment-là. Comme nous étions naïfs. En mars 1940, la Gestapo nous a chassés de notre maison et a créé un ghetto juif dans la ville. Le jour de mon anniversaire, le 5 avril, le ghetto était complètement scellé. Tout déplacement était formellement interdit aux Juifs. Les Allemands ont créé un nouveau conseil, le Judenrat, et cette fois-ci mon père a été choisi pour en faire partie. Chaim Rumkowski, un des doyens, venait souvent chez nous. Nous vivions à 8 dans une chambre minuscule et passait des nuits entières à discuter avec mon père de l'administration du ghetto. Si incroyable que cela puisse paraître, l'ordre régnait, malgré la surpopulation et la famine. Je suis retourné à l'école. Quand mon père n'assistait pas aux réunions du conseil, il travaillait 16 heures par jour dans l'un des hôpitaux que Rumkowski et lui avaient créés à partir de rien. Nous avons survécu ainsi pendant un an. J'étais petit pour mon âge, mais j'ai vite appris à survivre dans le ghetto, même s'il me fallait pour cela voler, stocker ou marchander de la nourriture et des cigarettes avec les soldats allemands. À partir de l'automne 1941, les Allemands ont transféré dans notre ghetto des milliers de Juifs de l'Ouest. Certains chassés de pays aussi éloignés que le Luxembourg. Beaucoup étaient des Juifs allemands qui nous regardaient de haut. Je me rappelle m'être battu avec un garçon plus âgé que moi, un Juif de Francfort. Il était beaucoup plus grand que moi. J'avais 16 ans à ce moment-là, mais on m'en aurait donné 13. N'empêche que je l'ai battu. Quand il a voulu se relever, je l'ai frappé avec une planche et lui ai fait une large entaille au front. Il était arrivé la semaine précédente dans un wagon plombé et il était encore très faible. Je ne me souviens plus pourquoi nous nous sommes battus. Cet hiver-là, ma sœur Stefa est morte du typhus, ainsi que plusieurs milliers d'autres malheureux. Nous avons vu arriver le printemps avec joie, en dépit de l'avance des armées allemandes sur le front de l'Est. Mon père considérait la chute imminente de la Russie comme un bon signe. Il pensait que la guerre serait finie en août. Il s'attendait à voir la plupart des Juifs relogés dans des villes nouvelles à l'est du pays. « Peut-être deviendrons-nous fermiers, afin de nourrir leur nouveau Reich, » disait-il. « Mais ce n'est pas si mal d'être fermier. » En mai, la plupart des Juifs venus d'Allemagne et de l'étranger ont été déportés à Osvicim, à Auschwitz. Peu d'entre nous avaient entendu parler d'Osvicim avant l'établissement d'une ligne régulière au départ de notre ghetto. Jusqu'à ce printemps-là, notre ghetto avait servi de gigantesque enclos. Désormais, il en partait 4 trains par jour. En tant que membre du Judenrat, mon père était obligé de superviser les rafles et les expulsions de milliers de personnes. Tout se déroulait dans un ordre parfait. Mon père détestait ça. Il travaillait 24 heures sur 24 à l'hôpital, comme pour faire acte de pénitence. Notre tour est venu à la fin du mois de juin, à peu près à l'époque où nous partions d'ordinaire pour la ferme de l'oncle Moshe. On nous a ordonné à tous les 7 de nous présenter à la gare. Ma mère et mon jeune frère Joseph ont pleuré, mais nous y sommes allés. Je pense que mon père était soulagé. On ne nous a pas envoyés à Auschwitz. Nous sommes allés à Chełmno, un petit village situé à une 60aine de kilomètres au nord de Lodz. J'avais eu un camarade, un petit garçon nommé Mordechai, dont la famille était originaire de Chełmno. Beaucoup plus tard, j'ai appris que c'était à Chełmno que les Allemands avaient effectué leurs premières expériences sur les chambres à gaz, durant l'hiver où ma pauvre Stefa avait péri du typhus. On nous avait raconté beaucoup d'horribles histoires sur ces wagons plombés, mais notre voyage ne fut pas désagréable et ne dura que quelques heures.
Nous étions entassés dans les wagons, mais c'était des wagons de passagers et non des wagons de marchandises. Il faisait très beau ce jour-là. C'était le 24 juin. À notre arrivée, c'était comme si nous étions allés chez l'oncle Moshe. La gare de Relmno était minuscule, un petit dépôt de campagne au sein d'une épaisse forêt verdoyante. Les soldats allemands nous ont conduits vers des camions, mais ils semblaient détendus, presque joviaux. Nous n'étions nullement bousculés, contrairement à ce qui se passait à Lodz. Nous avons roulé plusieurs kilomètres avant de découvrir une immense propriété aménagée en camp. Une fois arrivés là, on nous a enregistrés. Je me souviens encore des bureaux alignés sur le gravier et du chant des oiseaux. Puis on nous a séparés en fonction de notre sexe pour nous envoyer aux douches. J'étais impatient de rejoindre les autres hommes, et je n'ai jamais vu ma mère et mes quatre sœurs disparaître derrière la barrière du quartier des femmes. On nous a dit de nous déshabiller et de nous mettre en rang. J'étais très embarrassé car je venais juste d'atteindre ma puberté. Je ne me rappelle pas avoir eu peur. Il faisait chaud. On nous avait promis un repas après la douche, et la proximité de la forêt et du camp donnait à cette journée une atmosphère de fête. Dans une clairière, un peu plus loin, on pouvait voir un grand fourgon sur les flancs duquel étaient peints des arbres et des animaux. Nous commencions à nous diriger vers lui lorsqu'un SS, un jeune lieutenant au vert épais et au visage timide, a entrepris de séparer les malades, les vieillards et les enfants en bas âge des hommes mûrs. Le lieutenant a hésité quand il est arrivé devant moi. J'étais encore petit pour mon âge, mais j'avais été relativement bien nourri durant l'hiver et j'avais fait une crise de croissance au début du printemps. Il a souri et m'a fait signe de sa matraque de me joindre à la file des hommes valides. Mon père a été sommé de m'y joindre peu après. Yosef, qui n'avait que 8 ans, devait rester avec les enfants et les vieillards. Il s'est mis à pleurer, et mon père a refusé de le quitter. Je suis retourné dans la file pour me placer à côté de mon père et de Yosef. Le jeune SS a fait signe à un garde. Mon père m'a ordonné de rejoindre les autres. J'ai refusé. C'est la seule fois de ma vie où mon père m'a frappé. Il m'a poussé et m'a dit « Va-t'en ». J'ai secoué la tête et suis resté dans la file. Le garde, un sergent massif, s'avançait vers nous, le visage cramoisi. Mon père m'a donné une gifle. Une seule, très violente, et a répété « Va-t'en !» Choqué, vexé, j'ai rejoint la seconde file avant l'arrivée du garde. Le SS a continué son inspection. J'étais en colère contre mon père. Je ne voyais pas pourquoi nous n'aurions pas pu nous doucher ensemble. Il m'avait humilié en public. Pleurant des larmes de rage, je l'ai vu partir, son dos nu, tout pâle dans la lumière du matin, portant dans ses bras Yosef, qui avait cessé de sangloter et regardait autour de lui. Mon père m'a adressé un dernier regard, avant de disparaître au milieu des enfants et des vieillards. Le reste d'entre nous, environ un cinquième du contingent de la journée, ne fut pas désinfecté. On nous a conduits dans un baraquement où on nous a donné des uniformes de prisonniers. Je n'ai pas revu mon père cet après-midi-là, ni ce soir-là. Et je me rappelle avoir pleuré de solitude avant de m'endormir dans ce baraquement sordide. J'étais persuadé qu'en me rejetant ainsi, mon père m'avait obligé à rester en dehors de la partie du camp où séjournaient les familles. Le matin, on nous a servi de la soupe aux patates et on nous a répartis en groupes de travail. Le mien a été conduit dans la forêt. On avait creusé une fosse dans une clairière. Elle faisait 60 mètres de long, 12 mètres de large et au moins 5 mètres de profondeur. La terre fraîchement remuée m'a appris que d'autres fosses identiques avaient été récemment comblées. L'odeur aurait dû me faire comprendre, mais j'ai continué de nier la vérité jusqu'à l'arrivée des premiers fourgons de la journée. C'était ces mêmes fourgons que j'avais vus la veille.
Chelmno était un terrain d'expérience, voyez-vous. Himmler devait ordonner par la suite d'y installer des chambres à gaz à l'acide prussique. Mais cet été-là, ils utilisaient encore du monoxyde de carbone, qu'ils envoyaient dans des chambres scellées et dans ces fourgons bariolés. Notre travail consistait à séparer les corps, à les détacher les uns des autres, en fait, à les jeter dans la fosse et à les recouvrir de chaux et de terre avant l'arrivée des chargements suivants. Les fourgons n'étaient pas très efficaces. La plupart du temps, la moitié des victimes survivaient aux émanations de gaz et devaient être abattues au bord de la fosse par les Totenkopfverbände, les troupes à tête de mort qui attendaient l'arrivée des fourgons en fumant et en plaisantant. Certains survivaient même à ce coup de grâce et bougeaient encore lorsqu'on les enterrait. Ce soir-là, je suis retourné à mon baraquement couvert de sang et d'excréments. Durant la nuit, j'ai pensé à me laisser mourir. Mais j'ai fini par décider de vivre. Vivre en dépit de tout. Vivre au sein de cette horreur. Vivre pour vivre. Tout simplement. J'ai prétendu être le fils d'un dentiste et avoir reçu de mon père un début de formation. Les capots ont bien ri en découvrant un dentiste si jeune, mais dès la semaine suivante, on m'a transféré au service de récupération des dents. En compagnie de trois autres juifs, je fouillais les cadavres nus en quête de bagues, de bijoux et d'objets de valeur. On leur sondait l'anus et le vagin avec des crochets en acier. Puis, à l'aide d'une paire de tenailles, je leur arrachais leurs dents en or. On m'envoyait souvent travailler à la fosse. Un sergent SS s'amusait à me jeter des mottes de terre sur le crâne. Lui-même avait deux dents en or. Les Juifs chargés de l'ensevelissement des cadavres étaient d'ordinaire fusillés au bout d'une ou deux semaines pour être remplacés par de nouveaux arrivants. Je suis resté 9 semaines à la fosse. Peut-être parce que j'étais rapide et efficace. Chaque matin, j'étais sûr que ça allait être mon tour. Chaque soir, dans le baraquement, pendant que les plus vieux récitaient leur kaddish et se lançaient des « Eli, Eli » d'un lit à l'autre, je passais des marchés désespérés avec un Dieu en qui je ne croyais plus. « Encore un jour, » disais-je, « rien qu'un jour. » Mais c'était en ma propre volonté de survivre que je croyais le plus. Peut-être souffrais-je du solipsisme propre à l'adolescence, mais j'étais convaincu que si je croyais assez fort en la continuation de ma propre existence, celle-ci ne cesserait pas. En août, le camp a été agrandi. Et pour une raison inconnue, j'ai été transféré au Waldkommando, la brigade forestière. Nous abattions des arbres, arrachions des souches et transportions des pierres destinées à la construction des routes. De temps en temps, tout un groupe d'ouvriers était envoyé au fourgon ou directement à la fosse dès la fin de la journée. C'était ainsi que tournaient les effectifs de la brigade. Lorsque les premiers flocons sont tombés en novembre, j'étais le plus ancien du Waldkommando, à l'exception de Karski, le vieux capot. « Qu'est-ce qu'un capot ?» demanda Nathalie. « Un capot est un juif armé d'un fouet. » Ils assistaient les Allemands. Il existe toute une littérature sur les capots et sur leurs relations avec leurs maîtres nazis, dit Saul. Stanley Elkins et d'autres ont étudié ce genre de soumission propre au camp de concentration et ses rapports avec la docilité des esclaves noirs d'Amérique. En septembre dernier, j'ai participé à un débat portant sur le prétendu syndrome de Stockholm, ce syndrome qui frappe les victimes de prise d'otages et les force à s'identifier à leurs tortionnaires, et même à les soutenir. Comme dans l'affaire Patty Hearst? Oui. Et cette domination par la seule force de la volonté est un phénomène qui m'obsède depuis plusieurs années. Mais nous en reparlerons plus tard. Pour le moment, je me contenterai de préciser que, si l'on peut dire quelque chose en ma faveur, c'est que durant tout le temps que j'ai passé dans les camps, je ne suis jamais devenu un capot. En novembre 1942, l'aménagement du camp était terminé
et on m'a fait quitter les baraquements provisoires pour me transférer dans la partie principale. On m'a de nouveau affecté à la fosse. Les fours crématoires étaient prêts, mais on avait sous-estimé le nombre de Juifs amenés par les trains, si bien que les fourgons et la fosse étaient toujours en activité. On n'avait plus besoin de mes services en tant que dentiste des morts. Je répandais de la chaux, frissonnais dans l'air hivernal et attendais. Je savais que ce n'était plus qu'une question de jour, avant que je rejoigne ceux que j'ensevelissais quotidiennement. Puis, un jeudi soir, le 19 novembre 1942, il s'est passé quelque chose. Saul s'interrompit. Au bout de quelques secondes de silence, il se leva et alla près de la cheminée. Le feu était presque éteint. « Nathalie, pourriez-vous me servir quelque chose de plus fort que le café? Un Xérès, peut-être ?»«
Bien sûr. Voulez-vous du cognac ?»«
Ce sera parfait. » Lorsqu'elle revint quelques instants plus tard avec un verre à cognac presque plein, Saul avait attisé les braises, remis quelques bûches dans la cheminée et ranimé les flammes.
« Merci, ma chère. »
Il agita le liquide ambré et le huma longuement avant d'en avaler une gorgée. Le feu crépita et crachota. « Un jeudi soir, je suis raisonnablement sûr que c'était le 19 novembre 1942, cinq Allemands sont entrés dans mon baraquement tard dans la nuit. Ils étaient déjà venus. À chaque fois, ils avaient emmené quatre hommes. On n'avait jamais revu ces hommes. Les occupants des sept autres baraquements que comprenait notre section nous avaient dit que la même chose s'était produite chez eux. Nous ne savions pas pourquoi les nazis avaient choisi cette forme d'élimination alors que des milliers d'hommes étaient envoyés à la fosse chaque jour. Mais il y avait quantité de choses que nous ne comprenions pas. Certains parlaient à mots couverts d'expériences médicales. Cette nuit-là, il y avait un jeune Oberst, un colonel parmi les gardes. Et cette nuit-là, ils m'ont choisi. J'avais décidé de me battre si jamais ils venaient me chercher. Je me rends compte que cela semble contraire à la décision que j'avais prise de vivre en dépit de tout. Mais l'idée d'être emporté en pleine nuit me paniquait, m'enlevait tout espoir. J'étais prêt à me battre. Lorsque les gardes m'ont ordonné de quitter ma couche, je savais qu'il ne me restait plus que quelques secondes à vivre. J'étais résolu à tenter de tuer une de ces ordures avant qu'il ne m'assassine. Il en est allé autrement. L'Oberst m'a ordonné de me lever et je lui ai obéi. Ou plutôt mon corps m'a désobéi. Ce n'était pas seulement de la lâcheté ou de la soumission. L'Oberst a pénétré dans mon esprit. Je ne vois aucune autre façon d'exprimer ce qui m'est arrivé. Je l'ai senti, tout comme j'étais prêt à sentir les balles qui ne sont jamais venues. Je l'ai senti, lui, faire bouger mes muscles, faire traîner mes pieds sur le sol et faire sortir mon corps du baraquement. Et pendant ce temps-là, les SS riaient. Il est impossible de décrire ce que j'ai éprouvé à ce moment-là. On pourrait qualifier cela de viol mental, mais même cette expression est trop faible. À cette époque, je ne croyais pas à la possession démoniaque et aux phénomènes surnaturels, pas plus que je n'y crois aujourd'hui. Ce qui m'est arrivé résultait d'un talent psychique ou psychologique permettant de contrôler directement l'esprit d'autrui. Un talent monstrueux mais réel. On nous a embarqués dans un camion. Ce détail était proprement incroyable. Les Juifs n'étaient jamais autorisés à monter dans un véhicule, sauf lorsqu'ils arrivaient de la gare de Rzemno. Cet hiver-là, en Pologne, les esclaves coûtaient moins cher que l'essence. Nous sommes entrés dans la forêt. Nous étions 16 dans le camion, y compris une jeune femme. Le viol mental s'était interrompu, mais il m'avait laissé au fond de l'esprit un résidu plus répugnant et plus humiliant que les excréments dont mon corps était maculé quand je travaillais à la fosse. À en juger par les murmures et l'attitude des autres Juifs, cette expérience leur avait été épargnée.
Pour être tout à fait honnête, je commençais à douter de ma raison. Le trajet a duré moins d'une heure. Il y avait un garde auprès de nous pour nous surveiller. Il était armé d'un pistolet mitrailleur. Les gardes n'avaient jamais d'armes automatiques dans l'enceinte du camp, car ils redoutaient que nous nous en emparions. Si je n'avais pas été en train de me remettre de ma terrible expérience, j'aurais été tenté de maîtriser l'allemand, ou au moins de sauter de la remorque. Mais la seule présence invisible de l'Oberst dans la cabine m'emplissait d'une terreur plus aiguë que tout ce que j'avais pu ressentir jusque-là. Il était minuit passé lorsque nous sommes arrivés devant un bâtiment encore plus grand que celui autour duquel on avait édifié le camp. Il était au cœur de la forêt. Un Américain l'aurait qualifié de château, mais c'était à la fois plus et moins qu'un château. C'était un de ces anciens manoirs comme on en trouve parfois dans les forêts de mon pays. Un immense tas de pierres, plus ancien que notre histoire, entretenu et agrandi durant plusieurs générations par des familles de reclus dont l'origine remonte plus loin que la christianisation du pays. Le camion a fait halte et on nous a conduits dans une cave située non loin de la grande salle. Plusieurs véhicules militaires étaient garés dans les ruines d'un jardin jadis majestueux. On entendait des rires et des chants dans l'édifice, et je supposais que les Allemands avaient réquisitionné les lieux pour les transformer en pensions pour soldats privilégiés. En fait, une fois dans la cave, un juif lituanien, arrivé dans un second camion, a affirmé avoir reconnu l'insigne figurant sur les véhicules. C'était celui du Einsatzgruppen 3, un groupe d'action spéciale qui avait massacré des villages entiers de juifs près de Dvensk, sa ville natale. Même les Totenkopfverbände, les SS des camps d'extermination, redoutaient ces troupes d'élite. Quelque temps plus tard, les gardes sont revenus avec des torches. Nous étions 32 dans la cave. On nous a divisés en deux groupes de 16 et on nous a conduits au rez-de-chaussée. Là, les membres de mon groupe ont dû revêtir des tuniques rouges portant des insignes blancs sur le devant. Ce sont les gardes qui ont choisi nos uniformes. L'insigne que je portais, une tour ou un lampadaire de forme bizarre, ne signifiait rien pour moi. Mon voisin le plus proche portait la silhouette d'un éléphant blanc en train de lever sa patte antérieure droite. On nous a conduits dans la grande salle. Là, nous attendait un spectacle médiéval revu et corrigé par Jérôme Bosch. Des centaines de SS et d'assassins du Einsatzgruppen en train de boire, de jouer et de lutiner les servantes. Celles-ci, des paysannes polonaises parfois à peine pubères, étaient traitées comme des esclaves par les hommes en gris. Les torches accrochées au mur qui éclairaient ce tableau infernal le faisaient ressembler à un rêve fiévreux. Des reliefs de nourriture pourrissaient sur le sol. Les tapisseries, vieilles de plusieurs siècles, étaient souillées de vin et de suie. Une table immense et jadis somptueuse était recouverte de graffitis gravés à la baïonnette. Des hommes ivres-morts ronflaient sur le parquet. Sous mes yeux, deux soldats ont uriné sur un tapis qui devait avoir été ramené de Terre Sainte à l'époque des croisades. La salle était gigantesque, mais en son centre se trouvait un carré d'environ 11 mètres de côté qui était curieusement resté vide. Le sol était revêtu de dalles noires et blanches, dont chacune mesurait dans les 1,40 m. De chaque côté de ce carré, juste en dessous des balcons, on avait disposé deux immenses fauteuils sur des estrades de pierre. Le jeune Oberst était assis sur l'un de ces trônes. Il était pâle, blond, ne parfait à rien. Ses mains étaient fines et blanches. En face de lui se trouvait un vieil homme qui paraissait aussi antique que les pierres du manoir. Il était également vêtu d'un uniforme de SS, un uniforme de général, mais il ressemblait à un mannequin en cire que des enfants facétieux auraient affublé de vêtements trop grands pour lui. Les Juifs du second camion sont entrés par une autre porte. Ils étaient vêtus de tuniques bleu pâle arborant des insignes noirs semblables aux nôtres.
j'ai remarqué que dans ce groupe se trouvait une femme vêtue d'une robe bleu pâle sur laquelle figurait une couronne. J'ai alors compris ce qui se passait. J'étais dans un tel état d'épuisement et de terreur qu'aucune bizarrerie ne me semblait trop incroyable. On nous a ordonné de prendre place sur les cases. J'étais un pion, le pion du fou du roi blanc. Je me trouvais à 3 mètres du trône de l'Oberst, face au juif lituanien terrorisé qui était le pion du fou du roi noir. Les cris et les chants ont cessé. Les soldats se sont rassemblés autour de l'échiquier, jouant du coude pour se placer le plus près possible du bord. Certains d'entre eux ont préféré se masser sur les balcons ou sur les escaliers. Suivirent 30 secondes de silence, uniquement troublées par le crachotement des torches et le souffle de la foule. Nous étions immobiles sur les cases qu'on nous avait indiquées. 32 juifs affamés, terrifiés, livides, le souffle court, attendant la suite des événements. Le vieil homme s'est légèrement penché en avant et a fait un signe à l'Oberst. Celui-ci a eu un petit sourire et a hoché la tête. La partie a commencé. L'Oberst a de nouveau hoché la tête, et le pion placé à ma gauche, un vieillard émacié à la barbe grise, a avancé de 2 rangées. En réponse, le vieil homme a fait avancer de 2 rangées le pion de son roi. J'ai vu au geste et à l'embarras des malheureux prisonniers qu'ils ne contrôlaient pas les mouvements de leur corps. J'avais fait quelques parties d'échecs avec mon père et avec mon oncle. Je connaissais les ouvertures les plus classiques. Celles-ci n'étaient guère surprenantes. L'Oberst a jeté un coup d'œil sur sa droite et un Polonais massif portant l'insigne du cavalier est venu se placer devant moi. Le vieil homme a déplacé le cavalier de sa reine. L'Oberst a envoyé le fou qui se trouvait derrière moi, un vieillard au bras gauche bandé, à 5 rangées de la ligne du cavalier. L'autre a fait avancer d'une case le pion de sa reine. Je regrettais à ce moment-là d'avoir revêtu une tunique de pion. Le corps massif du cavalier paysan qui se trouvait devant moi ne me donnait aucune impression de sécurité. À ma droite, un autre pion a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, puis a grimacé de douleur lorsque l'Oberst l'a forcé à regarder devant lui. Je ne me suis pas retourné. Mes jambes commençaient à trembler. L'Oberst a fait avancer de 2 rangées le pion de notre reine, le plaçant à côté du vieux pion en face du roi adverse. Le pion de notre reine était un tout jeune homme, un adolescent, et il ne cessait de regarder furtivement à droite et à gauche sans tourner la tête. Le cavalier qui se trouvait devant moi était ma seule protection. Le vieil homme a fait un geste de la main gauche et son fou s'est placé devant sa reine, une juive hollandaise. Le visage du fou était très pâle. Au 5e coup, l'Oberst a déplacé son autre cavalier. Je ne pouvais distinguer son visage. Les SS s'étaient mis à crier et à applaudir, comme s'ils avaient assisté à un match de football. J'entendais des bribes de conversation dans leur rang. L'adversaire de l'Oberst était désigné sous le nom de Der Alte, le vieil homme. L'Oberst était Der Meister. Der Alte s'est penché en avant, telle une araignée blafarde au centre de sa toile, et le cavalier de son roi s'est placé devant le pion du fou. Ce cavalier était jeune et fort, trop fort pour avoir passé plus de quelques jours dans le camp. Il avait un sourire stupide aux lèvres, à croire qu'il goûtait ce jeu de cauchemar. Comme en réaction à son sourire, l'Oberst a fait avancer notre fou mal en point sur la case qu'il occupait. Je le reconnaissais à présent. C'était un charpentier de notre baraquement qui s'était blessé 2 jours plus tôt en sciant des planches pour le sauna des gardes. Le petit homme a levé son bras valide et a tapoté le cavalier noir sur l'épaule, comme une sentinelle venant relever un camarade. Je n'ai pas vu le coup de feu. Il est parti du balcon derrière moi, mais avec un tel bruit que j'ai sursauté et commencé à me retourner avant de sentir l'étau mental de l'Oberst se resserrer sur ma nuque. Le crâne du jeune cavalier a explosé,
et son sourire a disparu dans une brume grise et rouge. Les pions placés derrière lui ont fait mine de se jeter à terre, mais on les a obligés à se redresser. Le corps du cavalier a glissé en arrière et failli retourner dans sa case initiale. Une flaque de sang maculait déjà la case du pion blanc. Deux SS se sont avancés et ont évacué le cadavre. Quelques pièces voisines étaient aspergées d'éclats d'eau et de fragments de cervelle, mais personne n'avait été blessé. La grande salle croulait sous les applaudissements. Le vieil homme s'est de nouveau penché en avant et son fou s'est déplacé en diagonale vers le nôtre. Le fou noir a légèrement touché le bras bandé du charpentier. Cette fois-ci, il y eut une pause avant la détonation. La balle a touché notre fou sous l'omoplate gauche. Le petit homme a fait deux pas en avant, puis il est resté immobile une seconde, a fait mine de se gratter le dos et s'est effondré sur le carreau. Un sergent s'est avancé, a appuyé le canon de son lugeur sur le crâne du charpentier, a tiré, puis a traîné le cadavre encore tressautant loin de l'échiquier. La partie a repris son cours. L'Oberst a fait avancer notre reine de deux rangées. Seule une case vide la séparait à présent de moi, et j'ai vu qu'elle s'était rongée les ongles jusqu'à la chair. Cela m'a rappelé ma sœur, Stepha, et je me suis aperçu avec surprise que mes yeux se brouillaient de larmes. C'était la première fois que je pleurais Stepha. Lorsque le vieil homme a joué son coup suivant, la meute a rugi de satisfaction. Le pion de son roi a pris le pion de notre reine. Notre pion était un Polonais barbu, de toute évidence un juif orthodoxe. Deux coups de feu ont retenti. Le pion du roi noir était couvert de sang lorsqu'il a pris la place du mort sur sa case. Il n'y avait plus personne devant moi. À trois rangées de là, je voyais le visage du cavalier noir. Les torches projetaient des ombres longilignes. Les SS hurlaient leurs conseils tactiques depuis les bords de l'échiquier. Je n'osais pas me retourner vers l'Oberst, mais je voyais le vieil homme s'agiter sur son trône. Il avait dû se rendre compte qu'il perdait le contrôle du centre de l'échiquier. Il a tourné la tête, et le pion du cavalier de son roi s'est avancé d'une case. L'Oberst a déplacé d'une case notre fou survivant, bloquant le pion ennemi et menaçant le fou de son adversaire. La foule a applaudi. L'ouverture était achevée, et les deux joueurs ont commencé à développer leur tactique. Tous deux ont roqué. Les deux tours sont entrés en jeu. L'Oberst a placé notre reine devant moi. Je contemplais ses omoplates osseuses sous le mince tissu de sa tunique, les mèches bouclées qui retombaient sur sa nuque. Je ne cessais de nouer et de dénouer mes mains. Je n'avais pas bougé d'un pouce depuis le début de la partie. Une horrible migraine faisait danser des phosphènes devant mes yeux et je redoutais de m'évanouir. Que se passerait-il alors? L'Oberst me laisserait-il m'effondrer ou mon corps inconscient serait-il obligé de rester debout? Je respirais par à-coups et me forçais à regarder la lueur des torches jouer sur une tapisserie ornant le mur du fond. Lors du 14e coup des Noirs, le vieil homme a envoyé son fou prendre notre cavalier paysan au centre de l'échiquier. Pas de détonation cette fois-ci. Le sergent SS s'est avancé sur l'échiquier et a tendu son poignard d'apparat au fou noir. Silence dans la salle. La lueur des torches se reflétait sur la lame d'acier. Le cavalier paysan tremblait et se tortillait. Je voyais les muscles de ses bras se tendre dans un effort désespéré pour échapper au contrôle de l'Oberst. Vaine tentative. Le fou lui a tranché la gorge d'un seul coup de lame. Le sergent a récupéré son poignard et fait signe à deux soldats de venir emporter le cadavre. La partie a repris son cours. Une de nos tours a pris le fou noir. De nouveau le couteau a parlé. Debout derrière la jeune reine, je me suis forcé à fermer les yeux. Je les ai rouverts plusieurs coups plus tard, lorsque l'Oberst a fait avancer ma reine d'une case. J'ai eu envie de pleurer,
de crier quand elle m'a ainsi abandonné. Le vieil homme a immédiatement déplacé sa reine hollandaise en diagonale, l'immobilisant sur la cinquième case de la ligne de sa tour. Seule une case vide me séparait de la reine adverse. Rien ne l'empêchait de me prendre. J'ai senti mes entrailles se nouer de terreur. L'Oberst est alors passé à l'attaque. Tout d'abord, il a fait avancer le pion de son cavalier sur la gauche. Son adversaire a déplacé le pion de sa tour, un homme au visage rougeau qui avait fait partie de la brigade de la forêt avec moi pour contrer notre pion. En réponse, l'Oberst a déplacé le pion de notre tour. J'avais du mal à distinguer tous les mouvements. La plupart des autres prisonniers étaient plus grands que moi, et je voyais des dos, des épaules, des crânes rasés et des hommes suants et terrifiés plutôt que des pièces. J'essayais de visualiser l'échiquier en esprit. Je savais qu'il n'y avait plus derrière moi que le roi et une tour. La seule autre pièce placée sur ma rangée était le pion du roi. Devant moi, sur ma gauche, se trouvait un groupe formé de la reine, d'un pion, d'une tour et d'un fou. Un peu plus à gauche, notre cavalier survivant, isolé. À sa gauche, deux pions adverses se bloquaient mutuellement. Sur ma droite, la reine noire continuait de me menacer. Notre roi, un juif émacié d'une soixantaine d'années, a avancé en diagonale sur sa droite. Le vieil homme a renforcé la position de ses tours. Soudain, notre reine a reculé sur la deuxième rangée. À présent, j'étais seul. Quatre cases devant moi, le juif lituanien me regardait fixement. J'ai lu dans ses yeux une panique animale. Soudain, voilà que j'avançais, mes pieds traînant sur le marbre. Il y avait dans mon esprit une terrible et indéniable présence qui me poussait en avant, me maîtrisait, me serrait les mâchoires pour étouffer le cri qui montait de ma gorge. Je me suis immobilisé sur la case noire, où notre reine s'était trouvée quelques instants plus tôt, entourée de deux pions blancs. Le vieil homme a déplacé le cavalier noir, dont seule une case blanche me séparait. La foule hurlait plus fort que jamais. J'entendais les soldats scander « Meister, Meister !» J'ai de nouveau avancé, d'une seule case cette fois-ci. À présent, j'étais la seule pièce dans le camp adverse. Quelque part derrière moi, sur ma droite, se trouvait la reine noire. Je sentais sa présence avec autant de force que celle du tireur invisible sur le balcon. Quelques dizaines de centimètres devant moi se trouvaient le visage et les yeux égarés du cavalier noir. Derrière lui se tapissait le juif lituanien. La tour noire est passée sur ma gauche. Lorsqu'elle a mis le pied sur la case du pion blanc, les deux hommes se sont agrippés. J'ai d'abord cru que l'Oberst ou le vieil homme avaient perdu le contrôle de leur pièce, puis je me suis rendu compte que cela faisait partie du jeu. Les soldats allemands hurlaient leur soif de sang. La tour noire était plus forte, ou moins maîtrisée, et le pion blanc s'est effondré sous ses coups. La tour noire l'a serré à la gorge, accentuant son emprise. Un long râle sec, et le pion est tombé à terre. On n'avait pas plus tôt évacué son cadavre que l'Oberst déplaçait son cavalier sur sa case et que la lutte reprenait. Cette fois-ci, c'était la tour noire qu'on emportait, les pieds traînant sur le marbre, les yeux fixes et exorbités. Le cavalier noir est passé près de moi et ça a été une nouvelle lutte. Les deux hommes se sont jetés l'un sur l'autre, cherchant à crever les yeux de leur adversaire, jusqu'à ce que le cavalier blanc se retrouve sur la case vide derrière moi. Le tireur devait être posté sur le balcon, juste devant moi. J'ai senti le souffle de la balle et entendu l'impact. Le cavalier mourant s'est effondré tout près de moi. L'espace d'une seconde, sa main a enserré faiblement ma cheville, comme pour quémander de l'aide. Je ne me suis pas retourné. Ma reine se trouvait de nouveau derrière moi. Sur ma droite, un pion noir est venu la menacer. J'aurais pu l'attraper à la gorge si on me l'avait permis. On ne m'a pas fait agir. La reine a battu en retraite de trois cases.
Le vieil homme a fait avancer d'une case le pion de sa reine. L'Oberst a fait entrer en jeu le pion de notre fou. La meute scandait « Meister! Meister !» Le vieil homme a fait reculer sa reine de deux cases. On m'a de nouveau forcé à bouger. Je me suis retrouvé face à face avec le juif lituanien. Il était raide, paralysé par la peur. Savait-il que je ne pouvais rien contre lui tant que nous étions sur la même ligne? Peut-être pas. Mais je savais avec certitude que la reine noire pouvait m'éliminer d'une seconde à l'autre. Seule la présence invisible de ma propre reine, cinq cases derrière moi, me procurait une sensation de sécurité. Et si Der Alt était prêt à échanger les reines? Au lieu de cela, il a déplacé sa tour sur la case initialement occupée par le roi. J'ai perçu de l'agitation sur ma gauche. Le pion de notre fou éliminait un pion noir, puis était pris par le fou noir survivant. Pendant quelques instants, je suis demeuré seul en territoire ennemi. Puis l'Oberst a déplacé la reine blanche sur la case derrière moi. Quoi qu'il arrive par la suite, je ne serai pas seul. J'ai retenu mon souffle et attendu. Rien ne s'est passé. Ou plutôt, le vieil homme est descendu de son trône, a fait un geste et s'est éloigné. Il venait de reconnaître sa défaite. Les Einsatzgruppen, ivres, ont hurlé leur admiration. Un contingent de soldats portant l'insigne de la tête de mort s'est précipité vers l'Oberst et l'a porté en triomphe autour de la salle. Je suis resté immobile, face au Lituanien, clignant stupidement des yeux comme lui. La partie était terminée, et je savais confusément que c'était grâce à moi que l'Oberst l'avait gagné, mais j'étais trop étourdi pour comprendre pourquoi. Je ne voyais que des juifs épuisés, soulagés et confus, au milieu de cette salle résonnant de cris et de chants. Six hommes étaient morts parmi les blancs. Six pièces noires avaient disparu. Les survivants pouvaient de nouveau bouger, se mêler. Je me suis retourné pour embrasser la femme derrière moi. Elle pleurait. « Shalom !» lui ai-je dit en lui baisant les mains. « Shalom !» Le juif lituanien était tombé à genoux sur sa case. Je l'ai aidé à se relever. Un peloton de soldats armés de pistolets mitrailleurs nous a conduits au milieu de la cohue vers une pièce vide. Ils nous ont ordonné de nous déshabiller et ont fait un tas de nos tuniques. Puis ils nous ont emmenés dans la nuit pour nous fusiller. On nous a ordonné de creuser nous-mêmes nos tombes. Une demi-douzaine de pelles nous attendaient dans une clairière située 40 mètres derrière le manoir, et nous avons ouvert une large tranchée, peu profonde, pendant que les soldats nous éclairaient ou fumaient dans le noir. Le sol était couvert de neige, la terre gelée et dure comme la pierre, à peine si nous sommes arrivés à creuser plus de 50 centimètres. Entre deux pelletées, des rires nous parvenaient de la grande maison. Les hautes fenêtres étaient éclairées et découpaient des rectangles jaunes sur les pignons d'ardoise. Seuls l'exercice et notre terreur nous ont empêchés de geler sur place. Mes pieds nus avaient pris une horrible couleur bleutée et je ne sentais plus mes orteils. Nous avions presque fini de creuser et je savais qu'il me fallait prendre une décision. Il faisait très sombre et ma meilleure chance, pensais-je, était de fuir vers la forêt. Il aurait été préférable de nous enfuir tous en même temps, mais les plus âgés d'entre nous étaient trop épuisés pour courir, et on nous avait interdit de parler. Les deux femmes se tenaient à quelques mètres de la tranchée, tentant vainement de dissimuler leur nudité, tandis que les gardes les éclairaient de leurs torches en proférant des obscénités. Je n'arrivais pas à me décider. Devais-je tenter de m'enfuir ? Ou bien essayer d'assommer un garde avec ma pelle et de m'emparer de son arme? C'était des Einsatzgruppen, des Totenkopfverbände, mais ils étaient ivres et semblaient d'humeur coulante. Je devais me décider. La pelle. J'ai sélectionné un garde, un jeune homme de petite taille qui semblait somnoler à quelques pas de moi.
J'ai raffermi mon étreinte sur le manche de l'outil.
« Halt! Wo ist denn mein Bauer? »
C'était l'Oberst blond qui s'avançait vers nous en faisant crisser la neige sous ses pas. Il portait un épais manteau et était coiffé d'une casquette d'officier. Il a pénétré dans le disque de lumière et regardé autour de lui. Il avait demandé son pion. Quel pion?
D'où? Come here!
Il a fait un geste dans ma direction. Je me suis recroquevillé sur moi-même, m'attendant à un nouveau viol mental, mais rien de tel ne s'est produit. Je suis sorti de la tranchée, ai tendu ma pelle à un garde et me suis placé, nu et frissonnant, devant celui qu'ils avaient appelé Der Meister. Il s'est adressé au sergent responsable du peloton.
« Finissez-en, schnell !»
Le sergent a acquiescé et placé les Juifs ensemble au bord de la tranchée. Les deux femmes étaient blotties au bout de la rangée, dans les bras l'une de l'autre. Le sergent a ordonné aux prisonniers de se coucher dans la tranchée. Trois d'entre eux ont refusé et ont été aussitôt abattus. Celui qui avait été le roi noir s'est effondré en tressautant à 2 mètres de moi. J'ai baissé les yeux sur mes pieds exsangues et me suis efforcé de ne pas bouger, mais mes tremblements se sont intensifiés. On a ordonné aux autres juifs de tirer les cadavres vers la fosse où ils se trouvaient déjà. Silence. Les dos et les fesses pâles de mes amis prisonniers luisaient à la lueur des torches. Le sergent a donné un ordre et la fusillade a commencé. Cela a pris moins d'une minute. Le vacarme des carabines et des pistolets mitrailleurs semblait étouffé, insignifiant. Un léger pop et une nouvelle forme blafarde se convulsaient dans le trou avant de s'immobiliser. Les deux femmes sont mortes dans les bras l'une de l'autre. Le juif lituanien a poussé un cri en hébreu et lutté pour se redresser, levant les bras vers les gardes ou vers le ciel, je ne saurais le dire. Puis il a été presque coupé en deux par une rafale. Durant tout ce temps-là, je suis resté debout, tremblant, contemplant mes pieds et priant pour devenir invisible. Mais avant même qu'ils en aient fini, le sergent s'est tourné vers moi et a dit
« Celui-ci, mein Oberst ?»« Mein zuverlässiger Bauer !» a dit l'Oberst.
« Mon fidèle pion !»«
Nous allons organiser une chasse !» a-t-il ajouté.
« Eine Jagd ?» s'est étonné le sergent.
« Heute Nacht ?»« Wenn es dämmert ?»«
Auch der Alte ?»«
Ja ?» « Jawohl, mein Oberst !»
J'ai vu que le sergent était dégoûté. Il n'aurait pas le temps de dormir cette nuit-là. Pendant que les gardes recouvraient les cadavres d'une mince couche de terre gelée, on m'a reconduit au manoir et enchaîné dans la cave où j'avais été enfermé à mon arrivée. Mes pieds ont commencé à me picoter, puis à brûler. C'était très douloureux. Mais je commençais néanmoins à m'assoupir lorsque le sergent est revenu, m'a ôté mes chaînes et m'a tendu une tenue. Sous-vêtements, pantalons de laine bleue, chemise, pull-over, chaussettes de laine et une paire de bottes à peine trop petites pour moi. Ces humbles vêtements me semblaient merveilleux après les mois que j'avais passés au camp vêtu de haillons. Le sergent m'a conduit au dehors, où 4 SS attendaient dans la neige. Ils portaient des lampes torches et des fusils. L'un d'eux tenait un berger allemand en laisse, et l'animal m'a soigneusement reniflé pendant plusieurs minutes. La grande salle était plongée dans l'ombre. Les clameurs s'étaient tues pour la nuit, et une pointe de gris signalait l'imminence de l'aube. Les autres gardes venaient d'éteindre leurs lampes lorsque l'Oberst et le vieux général sont apparus. Ils n'étaient pas en uniforme, mais vêtus de lourdes vestes de chasse et de capes. Chacun d'eux portait un fusil de gros calibre, muni d'un viseur longue distance. C'est alors que j'ai compris. Je savais exactement ce qui allait arriver, mais j'étais trop épuisé pour m'en soucier. L'Oberst a fait un geste, et les gardes se sont écartés de moi pour se placer à côté des deux officiers.
Je suis resté là pendant une bonne minute, hésitant, refusant de faire ce qu'ils attendaient de moi. Le sergent s'est adressé à moi en mauvais polonais.
« Cours ! Cours, vermine juive ! Va-t'en !»
Et je ne bougeais toujours pas. Le chien tirait sur sa laisse en grondant. Le sergent a levé son fusil et tiré une balle qui a fait exploser la neige à mes pieds. Je n'ai pas bougé. Puis j'ai senti les premières caresses d'approche dans mon esprit.
« Va, Kleiner Bauer, va !»
Ce murmure soyeux en moi m'a donné la nausée. Je me suis retourné, j'ai couru vers la forêt. Je n'étais pas en état de courir très longtemps. Au bout de quelques minutes, je suffoquais et titubais. La trace de mes pas était clairement visible sur la neige, mais je ne pouvais rien y faire. Le ciel s'est éclairci, tandis que j'avançais péniblement vers le sud. Du moins, l'espérais-je. J'ai entendu des aboiements frénétiques derrière moi, et j'ai su que les chasseurs s'étaient lancés sur ma piste. J'avais franchi à peine un kilomètre lorsque je suis arrivé dans une zone dégagée. Une bande de terre large d'une centaine de mètres avait été déboisée et débroussaillée. Des rouleaux de fil de fer barbelés avaient été placés au milieu de ce no man's land, mais ce n'est pas cet obstacle qui m'a forcé à faire halte. Au centre de la clairière, une pancarte annonçait en allemand et en polonais « Danger ». Champ de mine. Les aboiements se rapprochaient. J'ai obliqué sur la gauche et adopté un petit trot douloureux. Je savais à présent qu'il n'y avait aucune issue. Le périmètre miné entourait sûrement la totalité de la propriété, leur réserve de chasse privée. Mon seul espoir était de retrouver la route par laquelle j'étais arrivé la veille. Il y avait une éternité de cela. Il y aurait certainement des gardes en poste au portail, mais j'ai quand même décidé de tenter le coup. Je préférais être abattu par les gardes que par les monstres lancés à mes trousses. J'étais même prêt à affronter le champ de mine avant d'offrir une cible aux chasseurs. Je venais d'atteindre un petit ruisseau lorsque j'étais à nouveau victime d'un viol mental. J'étais immobile, en train de contempler le courant à moitié gelé, lorsque je l'ai senti me pénétrer. J'ai lutté quelques secondes, les mains sur les tempes, à genoux dans la neige, puis l'Oberst a été en moi, a empli mon esprit comme l'eau, les narines, la bouche et les poumons d'un homme qui se noie. C'était encore pire. On aurait dit qu'un immense ver était entré dans mon crâne et me taraudait le cerveau. J'ai hurlé, mais aucun son n'est sorti de ma bouche. Je me suis péniblement relevé.
« Come here, mein kleiner Bauer !»
La voix de l'Oberst m'adressait ses murmures muets. Ses pensées se mêlaient aux miennes, plongeaient ma volonté dans une fosse de ténèbres. J'apercevais des images confuses, visages, lieux, uniformes, pièces. J'étais ballotté par des vagues de haine et d'arrogance. Son amour de la violence m'emplissait la bouche, et je sentais le goût cuivré du sang.
« Comme !»
Le murmure mental était séduisant, écœurant, comme si un homme avait insinué sa langue dans ma bouche. Je me suis regardé courir dans le ruisseau, reprendre la direction de l'ouest, courir vers les chasseurs, courir à vive allure, le souffle court, les poumons en feu. L'eau glacée m'aspergeait les jambes et alourdissait mes pantalons. Mon nez s'est mis à saigner, m'inondant les joues et le cou.
« Come here !»
Je suis sorti du courant et j'ai gagné un tas de rochers sous les arbres. Mon corps tressautait comme une marionnette lorsque j'ai escaladé les rocs pour me dissimuler dans une infractuosité. Je suis resté là, la joue contre la pierre, mon sang dégoulinant sur la mousse gelée. Des voix s'approchaient. Les chasseurs n'étaient qu'à 50 pas de moi, derrière le rideau des arbres. Je supposais qu'ils allaient encercler mon abri rocheux, puis que l'Oberst me forcerait à me relever afin que je leur fournisse une cible bien visible. J'ai lutté pour bouger les bras, pour bouger les jambes,
mais on aurait dit que quelqu'un avait tranché les câbles reliant mon esprit à mon corps. J'étais coincé ici aussi sûrement que si les rochers étaient tombés sur moi. J'ai entendu des bruits de conversation, puis à ma grande surprise, les hommes ont emprunté le chemin que j'avais pris 10 minutes plus tôt. J'ai entendu le chien aboyer en suivant ma piste. Pourquoi l'Oberst jouait-il ainsi avec moi? Je me suis efforcé de saisir ses pensées, mais il a repoussé mes pitoyables sondes mentales comme il aurait chassé un moustique agaçant. Soudain, je bougeais de nouveau. Je courais à croupetons le long des arbres, puis rampais sur le ventre à travers la neige. J'ai senti l'odeur de leurs cigarettes avant de les voir. Le vieil homme et le sergent se trouvaient dans une clairière. Le vieil homme était assis sur un tronc d'arbre, son fusil de chasse posé sur les genoux. Le sergent était debout près de lui, le dos tourné, tapotant machinalement la crosse de son fusil. Alors je me suis mis à courir, plus vite que je n'avais jamais couru. Le sergent s'est retourné au moment précis où je bondissais sur lui et le cognais de l'épaule. J'étais plus petit et moins lourd que lui, mais le choc l'a jeté à terre. J'ai roulé sur moi-même, hurlant en silence, souhaitant de tout mon cœur reprendre le contrôle de mon corps et m'enfuir dans la forêt. Puis je me suis retrouvé avec le fusil du vieil homme dans les mains, et je me suis mis à frapper le sergent en plein visage, utilisant la crosse superbement ouvragée en guise de gourdin. Le sergent a tenté de se relever, et je l'ai terrassé une nouvelle fois. Il a cherché à prendre son fusil, je lui ai écrasé la main, puis asséné des coups de crosse au visage jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. Ensuite, j'ai lâché le fusil et me suis tourné vers le vieil homme. Il était toujours assis sur le tronc d'arbre, une cigarette encore plantée entre ses lèvres minces, mais il tenait dans sa main un lugère qu'il avait sorti de son holster. Il paraissait âgé de 1000 ans, mais il y avait un sourire sur son visage de caricature. « Zi !» a-t-il dit, et j'ai su que ce n'était pas à moi qu'il s'adressait.
« Ja, Alte !»
ai-je dit, tout étonné d'entendre ces mots sortir de ma bouche.
« Das Spiel ist beendet !»« Nous allons voir !»
a dit le vieil homme en levant son arme. J'ai bondi sur lui et la balle a transpercé mon pullover, m'éraflant les côtes. J'ai agrippé son poignet avant qu'il ait pu tirer une seconde fois, et il s'est levé pour entamer une danse grotesque avec moi. Un jeune juif émacié au nez pissant le sang et un vieillard perdu dans son grand manteau de laine. Son lugeur a craché une nouvelle balle qui est allée se perdre dans l'air, puis j'ai saisi son arme et tâché tant bien que mal de prendre du recul pour la braquer sur lui.
« Nein !»
a crié le vieil homme. Puis j'ai senti sa présence tel un coup de marteau résonnant dans mon crâne. L'espace d'une seconde, j'ai sombré dans le néant pendant que ces deux obscènes parasites luttaient pour le contrôle de mon corps. Puis il m'a semblé que j'observais la scène de haut, que j'avais quitté mon corps. J'ai vu le vieil homme rigide et mon corps comme agité par de terribles convulsions. Mes yeux roulaient dans leurs orbites et j'avais la bouche grande ouverte, comme un débile mental. De la vapeur montait de l'urine qui avait coulé dans son pantalon. Puis j'ai retrouvé l'usage de mes yeux et le vieil homme n'était plus dans mon esprit. Il a reculé de 3 pas et s'est affaissé sur le tronc d'arbre.
« Willy, » a-t-il dit, « mein Freund. »
Mon bras s'est levé. Et j'ai abattu le vieil homme de 2 balles au visage et d'une balle dans le cœur. Il est tombé en arrière et je me suis retrouvé devant les semelles cloutées de ses bottes.
« Nous arrivons, pion !»
a murmuré l'Oberst.
« Attends-nous !»
Je suis resté immobile jusqu'à ce que j'entende leurs cris et les grondements du berger allemand derrière les arbres. Je tenais toujours le pistolet à la main. J'ai essayé de me détendre, de concentrer toute ma volonté et toute mon énergie sur l'index de ma main droite, sans penser à ce que j'allais faire. Les chasseurs étaient presque en vue, lorsque le contrôle de l'Oberst s'est relâché, juste assez pour me permettre d'agir. Ça a été la lutte la plus cruciale et la plus difficile de ma vie.
Je devais seulement bouger un doigt de quelques millimètres, mais j'ai eu besoin pour cela de toute l'énergie et de toute la détermination qui subsistait encore dans mon esprit et mon corps. J'y suis arrivé. Le lugeur a tiré et la balle m'a éraflé toute la longueur de la cuisse avant d'emporter le petit orteil de mon pied droit. La douleur ressemblait à un feu purificateur. Elle a semblé prendre l'Oberst par surprise, et j'ai senti sa présence se retirer, quelques secondes. J'ai fait demi-tour et me suis mis à courir, laissant des empreintes de sang sur la neige. Des cris ont retenti derrière moi. Une rafale d'armes automatiques a déchiré l'air, et j'ai entendu les projectiles passer près de moi en vrombissant comme des abeilles. Mais l'Oberst ne me contrôlait pas. Je suis arrivé devant le champ de mine et m'y suis précipité sans hésitation. J'ai écarté les barbelés de mes mains nues, m'en suis dépêtré d'un coup de pied et j'ai repris ma course. Si incroyable que cela paraisse, j'ai réussi à atteindre sain et sauf l'autre bout de la clairière. C'est à ce moment-là que l'Oberst a de nouveau pénétré mon esprit. « Halt !» Je me suis immobilisé. Je me suis retourné pour voir l'Oberst et les quatre gardes qui me faisaient face, de l'autre côté de la zone mortelle. « Reviens, petit pion !» a murmuré la voix de la créature. « La partie est terminée !» J'ai essayé de coller le lugeur à ma tempe. Impossible. Mon corps s'est mis à marcher vers eux, vers le champ de mine, vers leurs armes levées. C'est alors que le berger allemand a échappé aux gardes qui le tenaient en laisse et foncé sur moi. Le chien venait tout juste de pénétrer dans le champ. Il était à 6 ou 7 mètres de l'Oberst lorsque la mine a explosé. C'était une mine anti-char, un modèle très puissant. Un nuage de terre, de métal et de chair a envahi l'air. J'ai vu les 5 hommes se jeter à terre. Puis un objet mou m'a frappé en pleine poitrine et m'a fait tomber par terre. Je me suis relevé et j'ai vu la tête du berger allemand gisant à mes pieds. L'Oberst et 2 des soldats étaient à 4 pattes, étourdis, secouant la tête. Les 2 autres ne bougeaient plus. L'Oberst n'était plus en moi. J'ai levé le lugeur et vidé son chargeur sur lui. Il était trop loin. Je tremblais trop. Aucune de mes balles n'a atteint sa cible. J'ai fait demi-tour et me suis mis à courir. Je ne sais toujours pas pourquoi l'Oberst m'a permis de m'échapper. Peut-être avait-il été blessé par l'explosion. Ou peut-être qu'une démonstration trop poussée du contrôle qu'il exerçait sur moi aurait prouvé aux soldats que la mort du vieil homme était son œuvre. Je n'en sais rien. Mais j'ai toujours pensé que si j'ai réussi à m'enfuir ce jour-là, c'est parce que ma fuite servait les buts de l'Oberst. Saul s'interrompit. Le feu était éteint et minuit était largement passé. Nathalie Preston et lui étaient assis dans le noir. Depuis une demi-heure, la voix de Saul n'était plus qu'un murmure rauque. « Vous êtes épuisé, » observa Nathalie. Saul ne tenta pas de la contredire. Cela faisait 2 nuits qu'il n'avait pas dormi. Depuis qu'il avait vu la photo de William Borden dans le journal du dimanche matin. « Mais votre histoire ne s'arrête pas là, n'est-ce pas ?» reprit Nathalie. « Tout cela a un rapport avec les gens qui ont tué mon père, n'est-ce pas ?» Saul acquiesça. Nathalie quitta la pièce et y revint quelques instants plus tard avec des draps, des couvertures et un oreiller bien épais. Elle se mit à déplier le canapé-lit. « Restez ici cette nuit. Vous finirez votre histoire demain matin. » Je nous préparerai un bon petit déjeuner. « J'ai loué une chambre dans un motel, » articula Saul d'une voix rauque. L'idée de reprendre la route 52 pour rejoindre son motel lui donnait envie de fermer les yeux et de s'endormir sur place. « Mais je vous serai reconnaissante de rester ici. Je veux entendre... Non, je dois entendre le reste de votre histoire. » Elle marqua un temps. « Et... « Je ne veux pas rester seul dans cette maison cette nuit. » Saul acquiesça. « Bien. Il y a une brosse à dents neuve au-dessus du lavabo. Je peux sortir un des pyjamas de papa, si vous voulez. »« Non, c'est inutile. »« Entendu. »
Nathalie s'immobilisa devant la porte du couloir.
« Saul ?»
Elle s'interrompit et se frotta les bras.
« Tout ce que vous m'avez raconté, c'est vrai, n'est-ce pas ?»«
Oui. »
« Et votre Oberst était ici, à Charleston, la semaine dernière, n'est-ce pas ?»«
C'est un des responsables du meurtre de mon père. »«
Je le pense. »
Nathalie hocha la tête, fit mine de parler, se mordilla la lèvre et se contenta de dire
« Bonne nuit, Saul. »«
Bonne nuit, Nathalie. » Tout fatigué qu'il était, Saul ne trouva pas le sommeil tout de suite. Il observa les rectangles de lumière qui couraient le long du mur couverts de photographies chaque fois que passait une voiture. Il essaya de penser à des choses agréables, à une lumière dorée caressant les branches d'un saule ployant au-dessus d'un ruisseau, à un champ de pâquerettes blanches près d'une ferme où il avait joué étant enfant. Mais lorsqu'il finit par s'endormir, Saul rêva d'une belle journée de juin, de son frère Joseph, et d'un cirque planté dans un joli pré où des wagons joliment décorés conduisaient des groupes d'enfants rieurs vers la fosse qui les attendait.